Pakistan, Albert Londres et dissident, c'est la règle de trois de Taha Siddiqui. De nationalité pakistanaise, ce journaliste engagé, inscrit aujourd'hui sur la liste des hommes à abattre de l'armée, est né en 1984 en Arabie Saoudite, là où ses parents étaient partis chercher du travail. Élevé dans le quartier pakistanais de Jeddah et à l'école coranique, il voit ses parents se radicaliser jusqu'à ne plus fêter les anniversaires de leurs enfants, leur interdire de dessiner ou de jouer au foot. Quand le général Musharraf prend le pouvoir au Pakistan, Taha Siddiqui a 16 ans et rentre au pays avec sa famille. École de commerce, boulot d'analyste financier, il devient correspondant en économie pour la chaîne GOTV. Muselé dans ce pays de tous les paradoxes, il devient journaliste indépendant pour la presse internationale, New York Times, The Guardian, France 24. Albert Londres, grand reporter qui a donné son nom à un prix bien connu, Taha Siddiqui a eu ce prix en 2014 avec Julien Fouché et Sylvain Lepetit pour leur enquête sur l'interdiction du vaccin contre la polio par les talibans en Afghanistan.
Le Mollah intervient.
Ma mosquée.
Il nous expulse de la mosquée, c'est un fondamentaliste connu pour être un sympathisant des talibans.
Allez, il faut qu'on parte maintenant.
Ces reportages qui dénoncent les violations des droits de l'homme par les autorités militaires pakistanaises lui ont valu de nombreuses menaces jusqu'à cette tentative d'enlèvement en janvier 2018, racontée avec force au début de Dissident Club, chronique d'un journaliste exilé en France, la BD qu'il a signée avec Hubert Maury.
C'est intéressant de voir mon personnage sur de vraies pages. Et je pense que je ressors mieux en dessin que dans la vraie vie.
Mais avant d'être une bande dessinée, Dissident Club est un bar du 9e arrondissement de Paris, un lieu dédié aux lanceurs d'alerte du monde entier, qu'il a ouvert en 2020 après son exil en France avec femme et enfants. Celui qui enseigne le journalisme à Sciences Po Paris est dissident et fier de l'être. Il avait déjà créé une plateforme, safenewsroom.org, pour permettre aux journalistes censurés d'Asie du Sud de témoigner.
I try to be careful. But it's not as bad as it was in Pakistan, because in Pakistan it was basically direct assassination attempt that could have happened.
Sa BD est interdite au Pakistan. L'histoire ne dit pas si son père, toujours aussi radicalisé, la lira sous le manteau.
Taha Siddiqui, et ce roman graphique, cette BD démarre avec 6 pages absolument incroyables. Le 10 janvier 2018 à 8h12, vous êtes enlevé par des types armés jusqu'aux dents. Et s'il n'y avait pas eu le loquet, vous ne seriez pas ici avec nous aujourd'hui. Vous seriez mort.
Je pense à cela souvent, en effet. Si je n'avais pas échappé, que serait-il passé? Parce que vous savez, au Pakistan, il y a les disparitions forcées, comme on les appelle, et plus de 10 000 personnes sont portées disparues aujourd'hui, et ils sont en fait dans des prisons secrètes où l'armée décide de leur sort. Certains ne réapparaissent jamais, très peu réapparaissent en fait. Ils sont souvent assassinés, ils sont enterrés dans des tombes cachées. Et d'ailleurs, j'ai enquêté moi-même sur tout cela avant qu'ils m'attaquent.
L'armée a donné l'ordre de vous attaquer pour vous museler parce que vous aviez une conception en tant que journaliste de la liberté d'expression, de la liberté tout court, et puis de la dénonciation de la corruption au Pakistan et de la dénonciation des atteintes aux droits humains. C'est ça qu'on a voulu vous faire payer.
Well, definitely. I mean, oui, tout à fait. Les menaces ont commencé 6 ou 7 ans avant que je sois attaqué. On m'a aussi accusé de cybercrime dans le cadre de la loi contre le cyberterrorisme, et tout cela à cause de mes reportages. En fait, j'enquêtais sur l'armée pakistanaise qui, dans mon pays, elle domine tous les aspects. Elle a des entreprises, elle participe à des opérations militaires, bien sûr, notamment des opérations secrètes. Elle viole les droits humains. Elle manipule aussi la politique. Et ce sont tous des sujets dont on ne peut pas parler, malheureusement. Et bien sûr, il y a aussi ce lien avec les islamistes sur lequel aussi mes reportages portaient. Donc tout cela, ce sont des sujets tabous au Pakistan dont on ne peut pas parler normalement.
Dans ce roman graphique, on découvre votre éducation hyper rigoriste et on se demande comment vous avez pu échapper à la radicalisation. Qu'est-ce qui vous a sauvé?
Eh bien, c'est l'objectif de ce livre, c'est de faire cette introspection pour me comprendre. et voir vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Et il y a certains points de déclenchement, en fait, que je peux voir. Et l'une des choses les plus importantes, c'est quand je grandissais en Arabie Saoudite, j'étais le plus grand des fils, et j'ai vu mon père changer, et je me rappelle de ce changement. Et pour moi, c'était, je me demandais pourquoi cela se produisait. J'étais confus. Et quand je suis revenu au Pakistan, je me sentais déjà un peu comme un étranger dans mon pays. D'autant que j'avais vécu en Arabie Saoudite, donc j'avais une certaine distance vis-à-vis de la société pakistanaise. Et en plus, il y a cette histoire d'amour à l'université qui m'a vraiment touché. Je crois que quand vous êtes dans ce type d'histoire d'amour, cela vous fait poser des questions sur tout ce que vous croyez. Et donc, je remets en question l'islam, mon éducation. Et finalement, l'une des choses qui m'a sauvé, c'est le journalisme. Ça a été un moyen de remettre en question les choses, de trouver des réponses, peut-être pas très longtemps, parce que finalement, j'ai dû quitter le Pakistan.
Oui, l'amour, parce que vous étiez sunnite et vous êtes tombé amoureux d'une jeune fille chiite. Et ça a été une dévastation. Et c'est là où vous avez réalisé l'emprise de la religion et le dogmatisme.
Definitely, I mean, you know, I
oui,
was brought up
fait.
In a very conservative household.
J'ai été élevé dans une maison vraiment très conservatrice. Mes parents étaient extrêmement religieux, comme le livre l'explique. Donc, depuis un très jeune âge, on nous avait dit que les chiites étaient de mauvais musulmans. Même si pour moi cela n'avait pas vraiment de sens. Et quand je suis tombé amoureux de cette fille, pour moi c'était juste un autre être humain. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas être avec elle? Donc j'ai tenté d'expliquer cette division entre l'islam ou au sein de l'islam qui m'a aussi fait remettre en question l'islam lui-même.
Et vous êtes devenu athée?
Oui, je suis devenu athée progressivement, lentement. Premièrement, après avoir constaté cette division entre l'islam sunnite et chiite, j'ai remis en question l'islam. Ensuite, je me suis demandé si vraiment l'islam était juste une foi ou plutôt une idéologie politique. Et le journalisme a aussi aidé à remettre en question et enquêter sur tout cela. Et finalement, je me suis rendu compte que la religion est un moyen de contrôler, c'est un outil pour contrôler les autres.
Vous évoquez Asia Bibi dans votre livre. Taha Siddiqui, on va en parler avec vous, Nadia. Que devient-elle?
Ouais, le monde entier connaît son histoire. Elle s'appelle donc Asia Bibi. Elle est venue d'ailleurs dans cette émission il y a 3 ans. Elle est chrétienne, comme seulement 2% de la population pakistanaise. Son calvaire, son long calvaire a commencé un jour de 2009, quand des femmes, des voisines musulmanes l'ont accusée d'avoir insulté le prophète, d'avoir blasphémé après une altercation au sujet de l'eau dans un puits. Asia Bibi a ensuite été condamnée à mort. Elle est restée 10 ans en prison avant d'être acquittée. Et depuis, comme le raconte un article du Figaro, elle est tombée, je cite, dans les oubliettes de l'exil. Elle est installée au Canada dans une grande pauvreté. Elle n'a pas d'argent, elle n'a jamais reçu aucune aide matérielle. Et par ailleurs, elle ne peut pas retourner au Pakistan, elle ne peut pas aller voir les siens, elle ne peut pas voir sa famille, puisqu'elle est toujours haïe et menacée. Être chrétien au Pakistan, c'est risquer la vindicte, c'est risquer également la mort.
Je crois que toutes les minorités religieuses au Pakistan sont à risque, en fait. Pas seulement les chrétiens, il y a aussi les minorités hindoues et même la minorité chiite, par exemple, parmi les musulmans. Il y a de nombreuses minorités religieuses qui ne bénéficient pas de droits ou des mêmes droits. Et d'ailleurs, la constitution pakistanaise discrimine contre ces personnes. Par exemple, les non-musulmans ne peuvent pas être chefs d'État. Donc cela est inscrit dans la loi et la société elle-même est très radicalisée à ce sujet. Et donc un non-musulman n'est pas une personne égale aux autres au Pakistan.
Une dernière question, Taha Siddiqui, aujourd'hui, donc vous vivez en France, vous faites paraître ce formidable roman graphique Dissident Club, vous vous occupez, comme vous dites drôlement, je suis derrière le comptoir, vous êtes barman et vous vous occupez du Dissident Club Bar, rue Richer à Paris. Quand vous êtes arrivé en France en 2018, vous avez vu un psychanalyste parce que vous aviez des crises de panique après ce que vous aviez vécu. Vous reviviez cette tentative d'assassinat. Est-ce que ça va mieux? Je sais que vous vous sentez menacé, vous dites je suis quand même sur une liste, mais est-ce que ça va mieux?
Oui, je me sens bien plus en sécurité qu'au Pakistan. Mais en fait, quand je suis arrivé ici, je pensais que l'exil m'apporterait une sécurité complète, mais ce n'est pas le cas. Car si vous continuez de faire le travail que je faisais au travail, eh bien, il y a ce qu'on appelle la répression transnationale. Et j'en suis victime et j'ai été contacté d'ailleurs par les renseignements français et américains qui m'ont dit de faire attention, de rester vigilant. Donc, je fais attention des personnes que je rencontre ou à qui je parle. Et je fais aussi toutes ces activités pour me donner plus de visibilité, parce que plus je suis visible et plus je suis protégé.
Magnifique. Merci.